Quel est le lien entre robotique et réadaptation, entre ingénierie et dextérité restreinte? En fait, c'est la technologie au service de la mobilité. Pour approfondir ce sujet un peu plus pointu, j'ai au téléphone avec nous M. Philippe Archambault, chercheur à l'Université McGill et membre du laboratoire vivant de réadaptation du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain. Donc, un très grand titre pour introduire un très grand chercheur. Bonjour, M. Archambault.
Bonjour.
Quand on s'intéresse à l'actualité de l'accessibilité et des aides à la mobilité, on entend de plus en plus parler de l'usage des nouvelles technologies. Est-ce que les ingénieurs et les informaticiens représentent l'avenir de la mobilité?
Bien, ça représente certainement un avenir. Je pense que les ingénieurs et informaticiens ont toujours été là pour développer des technologies comme les fauteuils motorisés, puis les améliorer au cours des années. Et puis maintenant, il y a d'autres avancées là, qui nous viennent justement des technologies de robotique, comme vous faisiez mention dans votre introduction.
Et quelles sont justement les principales applications de la technologie dans la réadaptation et l'aide à la mobilité? Vous avez brièvement parlé des fauteuils motorisés, mais c'est beaucoup plus large que ça.
Oui, c'est sûr, c'est plus large que ça. Ben, j'en parle parce que moi, c'est le domaine dans lequel je travaille et que je connais le mieux. Mais au niveau du fauteuil motorisé, pan-canadienne, qui est financé par AgeWell, qui est un réseau stratégique donc canadien. Et puis, on s'intéresse à des applications pour fauteuils motorisés intelligents, donc des fauteuils motorisés qui seraient capables d'éviter automatiquement des obstacles, de s'arrêter s'il y a une personne devant ou un mur ou du mobilier, donc qui pourrait aider les personnes à se déplacer là, sans entrer en collision. Il y a d'autres technologies là, qui pourraient permettre aux fauteuils de se diriger tout seul avec une carte d'un environnement intérieur, par exemple, donc de retrouver son chemin dans un hôpital, un centre communautaire, un centre commercial. Puis ça, c'est des technologies qui viennent de la robotique, justement.
C'est comme un genre de GPS intégré?
Oui, un genre de GPS intégré. Mais plus que les robots mobiles n'ont pas nécessairement besoin de GPS. Ils ont aussi des façons par une caméra de se créer une carte, de cartographier un environnement, puis après ça de pouvoir s'orienter par rapport à cet environnement-là. Puis c'est un genre de technologie, d'approche qu'on peut utiliser pour le fauteuil motorisé également.
Justement, développer de telles technologies, bon, ça demande de marier des experts en technologie de différents domaines avec d'autres professionnels qui connaissent bien les différents besoins des utilisateurs. Donc, c'est vraiment... En fait, on combine deux secteurs, secteur de la santé et secteur des technologies. Comment est-ce que ça fonctionne, cette évaluation-là des besoins?
Bien, ça, c'est un aspect du projet dans lequel j'ai été particulièrement impliqué. Puis, c'est clair que c'est très important là, de pas simplement de développer de la technologie, mais d'avoir un modèle qui centré sur les besoins de l'usager. Alors, la façon dont on a procédé, nous, c'est par des entrevues avec des utilisateurs de fauteuils roulants, avec des cliniciens, dans le cadre du projet de Laboratoire Vivant, là, qui est un partenariat avec le centre commercial Alexignon. On a le droit d'utiliser leur installation pour nos projets scientifiques. Justement, on invitait les participants pour cette étude-là au centre d'achat, puis donc pour que ce soit vraiment dans un milieu concret, puis on leur demandait quels étaient les défis pour un nouvel utilisateur de fauteuil roulant, parce que ou pour eux-mêmes, puis que pour pouvoir déterminer là, ce qu'on pourrait faire avec la nouvelle technologie. On leur montrait aussi, pour les mettre dans le contexte, une vidéo des différentes technologies qui pourraient être appliquées au fauteuil roulant, comme j'ai décrit plus tôt. Je veux juste dire, c'est pas des nouvelles technologies, c'est le genre de choses qui existent là pour disons, la conduite automobile, la robotique. Fait que c'est vraiment des applications de technologies existantes là, au déplacement en fauteuil motorisé. Alors, en leur montrant cette vidéo-là, ben ça, on a pu voir un peu aussi qu'est-ce qu'ils aimaient ou aimaient moins dans ce qu'on leur proposait, quels étaient les besoins, puis des questions comme ça, je pense qu'ils sont essentielles après ça pour pouvoir choisir là, quoi développer en premier.
Mm-hmm. Combien d'années ça représente entre la planche à dessin et l'application concrète sur le projet comme le fauteuil roulant?
Ça, c'est toujours une bonne question. Combien d'années? Je peux répondre parce que je dirais que on fait de la recherche universitaire. Fait que notre mandat, c'est pas nécessaire. Notre intérêt, c'est pas nécessairement de faire un produit fini, là, mais c'est de développer des prototypes qui fonctionnent. Puis après ça, c'est aux compagnies de fauteuils ou aux autres industriels qui doivent prendre le relais. Mais c'est sûr que nous, dans notre travail, on essaie d'établir ces contacts-là. Là, mais parce qu'il y a tout un travail, une fois que le prototype fonctionne, de le peaufiner, de le rendre compact, compatible avec les différents modèles de fauteuils roulants solides. Là, on sait que pour les fauteuils roulants, les gens vont dehors, les gens font toutes sortes de vont rendre un transport adapté. Alors, faut que ça soit solide, là, faut que ça résiste aux collisions. Fait qu'il y a tout un côté là, packaging, là, puis développement de produits que c'est l'industriel qui doit faire, que nous on fera pas à l'université. Mais on a dans l'équipe Edgewell que je mentionnais, on a une étudiante au doctorat qui commence sa propre compagnie et puis qui veut justement travailler sur ce genre d'aspect-là. Fait que ça peut être assez rapide, mais c'est sûr qu'on parle de, je sais pas, d'un horizon de peut-être 5 à 10 ans.
Mm-hmm. Ouais. Tout de même, pour toutes ces années pour travailler à la conception. Est-ce que c'est une technologie, je m'interroge, moi j'utilise un fauteuil roulant manuel, okay. Mais pour ceux qui utilisent un fauteuil roulant, mode technologique qui est accessible financièrement,
ben ça va rester aussi une partie de l'équation. Puis je pense que, pour donner un exemple, pour l'évitement d'obstacles sur notre prototype, on travaille avec des senseurs à balayage laser donc, qui sont capables de détecter des obstacles avec une très haute précision. Mais bon, ça en prend deux, puis sont 1 000 $ chaque. Alors là, on essaie de voir si on peut obtenir le même genre des résultats satisfaisants avec d'autres genres de senseurs qui utilisent les ultrasons, un peu comme les dauphins, les chauves-souris. Puis ça, c'est beaucoup moins cher. Là, je pense qu'on parle d'une $50 seulement pour les. Mais bon, en plus, en plus des pièces, il y a tout le côté algorithme, contrôle là, ou ordinateur qui est dans ça, là, mais les fauteuils en ont déjà des petits ordinateurs. Fait que c'est de tout mettre ça ensemble. Là, mais alors, c'est clair qu'on aimerait que ce soit le moins cher possible, mais et puis on essaie de faire une partie du travail de notre côté, là, mais ça va aussi dépendre là, de comment ça va être
repris par l'industrie.
Repris après par l'industrie, exactement.
Tout à fait. Wow, ben c'est vraiment passionnant. J'ai l'impression qu'il va y avoir des fauteuils exosquelettes où on va pouvoir jouer à Mission Impossible déguisé en Batman. Ça promet. Philippe Archambault, vous êtes chercheur à l'Université McGill, membre du Laboratoire vivant de réadaptation du Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain. Merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes pour nous parler de cette application technologique au service de la mobilité.
Merci beaucoup, ça me fait plaisir.
Merci.